Vous êtes sur RTL. Oui. RTL Midi. Le 12h.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h. C'était avec vous, Agnès Bonfillon. Bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour à tous. À la une, ils sont reconnus coupables de harcèlement scolaire. Mais impossible de dire si c'est pour cette raison que Lucas, 13 ans, s'est suicidé en janvier dernier. Dans les Vosges, 4 collégiens écopent de mesures éducatives en attendant leur peine définitive. Ils risquent 18 mois de prison. 5 centimes de moins, c'est toujours ça de prix. C'est la première fois en un an et demi que notre panier RTL est en baisse. Resserrement du prêt à taux zéro, aide à la location, fin du dispositif Pinel. En pleine crise du logement, le gouvernement fait plusieurs annonces cet après-midi. À suivre également le procès des agresseurs de Jean-Baptiste Trogneux. Il a lieu cet après-midi à Amiens et selon son avocat, le neveu de Brigitte Macron reste toujours choqué.
Évidemment, on en parlera à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. 32-10.
Et vous pouvez également parler de la 14e journée de mobilisation. Demain, c'est notre question du jour contre la réforme des retraites. Cette nouvelle journée, allez-vous manifester ? La tournée de Mylène Farmer, ça y est, cette fois, c'est parti. Un retour flamboyant auquel a assisté Steven Bellery, qui a recueilli les confidences exclusives, s'il vous plaît, du producteur historique de la chanteuse. Ambiance garantie dans LVT Midi à 12h50.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Nous allons revenir sur un phénomène récurrent ces derniers jours. Les orages aussi brefs que violents dans le sud ce week-end dans le Bordelais, les vignobles ont été particulièrement touchés.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h. J'ajoute un sujet qui me passionne. Les hôtes et les hôtesses de Roland-Garros doivent respecter un dress code qu'ils doivent respecter à la lettre. Est-ce choquant un maquillage léger, notamment pour les femmes, mais toujours présent et résistant aux intempéries? C'est écrit noir sur blanc. Qu'en pensez-vous?
Avant ça, la météo.
Louis les Baudin. Jambes et les aisselles également épilées.
Très bien. Louis Bonin, nous, on va se contenter de la météo.
Il est épilé de la tête, Louis.
En un mot, ce qui nous attend cet après-midi, Louis.
Quotidiennement. De la tête.
Du soleil dans la moitié nord, du temps calme dans le sud, mais là, attention de nouveau aux orages en fin d'après-midi.
Et la météo complète à la fin de ce journal.
RTL Midi.
Oui, ils ont bien harcelé Lucas. Non, ils ne sont pas responsables de sa mort, selon le tribunal pour enfants d'Épinal. Les 4 collégiens poursuivis après le suicide de l'adolescent en janvier dernier ont écopé de mesures éducatives provisoires en attendant une prochaine audience en janvier prochain. Un jugement qui satisfait la maman de Lucas.
C'est du soulagement parce que les moqueries ont été réitérées à plusieurs reprises et quand on disait que c'était de simples moqueries entre enfants, et finalement non, c'est vraiment du harcèlement et c'est ce que j'attendais, que mon fils soit reconnu comme victime de harcèlement scolaire et c'est tout ce que je lui devais. On va mener des actions contre le harcèlement, contre toutes sortes de harcèlement dans toute structure possible et je m'arrêterai pas là. De toute façon, je vais me battre jusqu'au bout pour que ça s'arrête, que tout le monde se remette en question, que les harceleurs se remettent en question, que les victimes se disent que non, ils ont pas à subir ce qu'ils subissent et on y arrivera. De toute façon, on va se battre pour ça.
Le lien de cause à effet n'a pas été fait, c'est pas une déception malgré tout entre le harcèlement.
Le harcèlement a été reconnu, donc non.
Pas de lien de causalité, on l'a entendu, entre le harcèlement et le suicide. Dimitri Ramelot, bonjour à vous.
Bonjour.
Les 4 adolescents risquent quand même une peine de prison.
Oui, 1 an et demi de prison pour ces collégiens, une peine qui aurait pu être beaucoup plus lourde, 5 ans, si la justice avait estimé que les propos homophobes avaient conduit au suicide de Lucas, dans l'attente de l'audience du 22 janvier 2024, qui fixera donc les peines pour harcèlement. Les 4 adolescents sont soumis à des mesures éducatives provisoires, c'est-à-dire que des professionnels vont les sensibiliser à ce type de harcèlement et à leur apprendre pour lutter contre. Sinon, n'accepte pas la décision de culpabilité prononcée ce matin, les 4 collégiens ont 10 jours pour faire appel.
Dimitri Ramelot à Épinal pour RTL. Cet après-midi, le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, reçoit la famille de la jeune Lindsay. Elle aussi avait 13 ans lorsqu'elle a mis fin à ses jours il y a 3 semaines dans le Pas-de-Calais. Elle aussi était harcelée à l'école et sur les réseaux sociaux.
RTL Midi.
Ce n'était plus arrivé depuis un an et demi. Notre panier RTL est en baisse.
Légère baisse, 5 centimes de moins seulement par rapport au mois de mai. Mais c'est un début. Depuis 16 mois consécutifs, souvenez-vous, le ticket de caisse était en augmentation continue. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Alors reste à savoir si cette soudaine inversion va s'inscrire dans le temps.
Oui, ça va continuer. Après toute la communication autour du trimestre anti-inflation, les grandes surfaces élargissent enfin leur baisse de tarifs. Après les produits premier prix, elles sont en train de changer les étiquettes en rayon des marques de distributeurs. C'est la gamme au-dessus, c'est les produits qui concurrencent les grandes marques nationales. Résultat, dans notre panier RTL, le paquet de café baisse d'un centime, la barquette de steak haché de 19 centimes.
C'est mieux.
L'huile de 9 centimes pour le deuxième mois consécutif. Ensuite, il y a les céréales, il y a le kilo de pommes. Et donc, tout ça, c'est porté par les MDD, les marques de distributeurs, mais on sait que les grandes marques vont suivre, puisqu'elles ont enfin accepté de renégocier leur prix. On devrait le constater cet été.
Les raisons de cet infléchissement, c'est la baisse du prix des matières premières.
Oui, on en parle régulièrement, ça se concrétise enfin. Il y a les produits bruts, céréales, colza, on l'a souvent dit, mais surtout les prix de l'énergie qui sont en train de chuter, le gaz ou encore le carburant. Le baril de pétrole coûte aujourd'hui 77 $ contre 125 il y a un an. Ça se traduit doucement à la pompe, mais ce sera de plus en plus vrai. Acheminer les matières dans les usines coûte moins cher. Livrer les produits finis coûte moins cher. Autrement dit, les coûts de production sont en train de baisser. Ces 5 centimes d'économie sur notre panier, c'est le tout début de l'histoire.
Et les prix à la pompe, nous y reviendrons dans la deuxième partie de RTL Midi avec Christophe Bourou. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Pour RTL, le match entre Bordeaux et Rodez doit-il être rejoué? Réunion de la commission de discipline de la Ligue de foot cet après-midi. La rencontre, vous le savez, a été interrompue vendredi soir après l'agression d'un joueur aveyronnais par un supporter des Girondins. Ce dernier sera jugé en correctionnel fin novembre.
RTL, Roland-Garros 2023.
On part à Roland-Garros et on rejoint Jean-Michel Rascol. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour.
On débute par le programme du jour.
Oui, avec la possibilité pour Ons Jabeur, la Tunisienne, de se qualifier pour la première fois en quart de finale à Roland-Garros. Elle mène 6-3, 4-1, face à l'américaine, la gauchère américaine Bernarda Pera. Et ça sera une belle performance parce qu'on sait qu'elle court depuis très longtemps sur ce quart de finale. Elle n'arrive pas à l'accrocher et elle est tout près maintenant puisqu'elle s'offre même un jeu à 5-1. Donc elle est à un jeu de ce quart de finale. Il y aura des beaux matchs tout au long de cette journée ensoleillée. On reverra Casper Ruud, on reverra aussi Holger Rune. Et puis le match le plus accroché peut-être opposera Grigor Dimitrov à Alexander Zverev. Ce sera le match de la soirée.
Et aujourd'hui, forcément, on fête un anniversaire quand même à Roland-Garros, c'est pas que.
Alors c'est un anniversaire que Roland-Garros a déjà fêté, la veille du tournoi avec un concert de Noah sur le cours central, puis l'inauguration d'une fresque à la gloire et à la dimension de l'exploit réalisé il y a donc 40 ans, 5 juin 1983. Rappelez-vous, tie-break du troisième set, deuxième balle de match, le retour de Wilander qui part dans les bâches, Noah à genoux, qui enjambe ensuite le filet, repousse un supporter pour chercher les bras de son père. Ces images appartiennent à la mémoire collective du sport français. Un dimanche d'été et une nuit d'ivresse dans sa propriété de Nainville-les-Roches dans l'Essonne, Noah est avec ses amis dont le chanteur Louis Bertignac. Isabelle Langer a rencontré Bertignac, souvenir d'une fête il y a donc 40 ans.
Il gagne, on est tous contents évidemment, parce que c'est rare qu'un Français gagne. Et en plus, c'est un pote qui gagne, donc on est fou de joie. Et je sais plus, je pense qu'à la fin du match, on s'est retrouvés, il nous a dit « bon, on fait la fête ce soir, ramenez-vous ». On était là, tout le groupe, on était tous là, et c'était la fête. Je sais qu'on a joué des morceaux, Yannick est venu chanter. Non, ça a duré jusqu'à tôt le matin, ouais. Moi je m'en souviens, mais bon, je me souviens pas tellement des détails.
Voilà, il n'a pas tout à fait les détails en tête. Entretien retrouvé dans le Focus Noah proposé par Isabelle Langer sur RTL.fr. Il y a des anniversaires dont on ne se lasse pas, même si Noah n'a toujours pas d'héritier sur cette terre baignée de soleil, ici à Roland-Garros.
Et vous étiez présent, Jean-Michel, il y a 40 ans, le 5 juin à Roland-Garros. Vous étiez un jeune journaliste avec Fabrice Valédan.
Cette deuxième balle de match formidable.
Merci Jean-Michel, à tout à l'heure, midi et demi. La météo, c'est avec vous, Louis Baudin. Rien ne change.
Exactement, avec donc toujours du grand soleil dans la moitié nord. Ça va intéresser Roland Garros. Il n'y aura pas d'interruption cet après-midi. Grand ciel bleu, attention aux coups de soleil. Mais dans la moitié sud, si pour l'instant on a encore un temps calme et relativement ensoleillé, les premiers orages débutent là sur le massif central, sur les Pyrénées. Et ils vont de nouveau se multiplier cet après-midi. Alors donc près des Pyrénées, du massif central, les Alpes, le relief corse, là aussi ça commence. Et ça pourra déborder en plaine autour de la vallée du Rhône ou encore du côté de la vallée de la Garonne. Tout ça donc avec parfois des averses accompagnées d'orages ou encore de fortes rafales de vent. Les températures, là encore ça ne bouge pas. 17 à 23 degrés près de la Manche, mais 24 à 29 degrés dans toutes les autres régions. C'est très homogène.
Merci beaucoup Louis.
RTL Midi, un jour chez vous.
Chaque jour l'info plus près de vous et on va parler des orages et de la violence de ces orages.
Oui, et pour cela nous prenons la direction de Grésillac en Gironde, tout près de Saint-Émilion, où un violent orage de grêle a frappé vendredi soir une partie du vignoble. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour.
Plusieurs parcelles ont été entièrement ravagées.
Oui, dans les vignes de Maxime Barraud, trentenaire qui a repris l'exploitation familiale. L'orage a éclaté à 18h30, précise, 10 minutes de vent violent, pluie et grêlons qui ont haché menu une partie de ces vignes.
L'entièreté de notre vignoble se trouve sur le secteur de Grésillac et les 75 hectares ont été touchés à différents degrés.
Maxime, là c'est votre parcelle la plus touchée?
Ça fait partie des parcelles les plus touchées où on a perdu, on pense, entre 50 et 80% du potentiel de récolte.
Qu'est-ce qu'on voit là par exemple?
On voit des rameaux cassés. On avait des vignes avec une vingtaine de rameaux verts qui montaient à 1,20 m de hauteur et on n'a plus que maintenant des bouts de rameaux de 20 cm avec voilà, des restes de grappes. Donc difficile à savoir comment la vigne va réagir. Cette vigne devant nous, elle perd les trois quarts de son potentiel. On pense quand même que la moitié de la récolte est compromise.
Louis Baudin nous le disait, ces épisodes orageux pourraient bien continuer toute cette semaine. On imagine la crainte des viticulteurs.
Ouais. Exactement, Maxime va plutôt mal dormir cette semaine. Pour le moment, il ne peut que soigner sa vigne en espérant que le cycle journée chaude, orage en fin d'après-midi s'enraye. D'ici là, en fait, le vigneron fait ce qu'il peut.
Aujourd'hui, la première chose à faire pour nous, c'est de finir le relevage, de remettre tous les rameaux droits. Si jamais on a un nouveau coup de vent, il ne faut pas qu'on ait encore plus de dégâts. Il faut sauver ce qui reste. Voilà, c'est la première chose qu'il faut faire. Puis voilà, espérer que la vigne reparte d'elle-même. C'est résilient, une vigne. Il y a des entrecœurs qui vont repousser. Bon, il n'y aura pas de nouvelles grappes, ça c'est sûr.
Comment est le moral aujourd'hui?
C'est pas un épisode isolé après 10 ou 15 années où on avait pu faire le plein. On a eu 5 à 7 épisodes climatiques entre les grêles, les gelées, les sécheresses qui ont vraiment impacté nos récoltes. Ça se ressent sur la trésorerie, dans un contexte de commercialisation des vins de Bordeaux difficile. Il y a un peu tout qui est contre nous en ce moment.
Mais bon, Maxime est quand même dans l'action, pas vraiment le choix. Il vient de repartir travailler dans ses vignes en short parce qu'il fait déjà très chaud et en bottes aux pieds parce que le sol est détrempé avec les orages et le ciel est déjà chargé ici.
Philippe de Maria, Grésillac, en Gironde pour RTL. Merci Philippe.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'interroge pour développer l'un des titres de l'actualité du jour et on s'arrête même. C'est cet après-midi après que les trois agresseurs présumés du neveu de Brigitte Macron vont être jugés. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi. Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Là, on est arrivé sur une agression vraiment physique qui est absolument insupportable pour la simple et bonne raison qu'il fait partie de la famille du président. Avant tout, j'attends que la justice fasse son travail et qu'elle soit exemplaire parce que ce n'est que dans l'exemplarité qu'on arrivera à calmer certaines personnes. Simplement, au niveau de ma famille, je ne l'accepte pas et là, je suis révolté.
Le père de Jean-Baptiste Trogneux, le neveu de Brigitte Macron, a agressé le 15 mai dernier. Le procès de ses agresseurs a lieu cet après-midi à Amiens. Bonjour Franck Hanson.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Vous allez suivre l'audience pour RTL. Franck, tout d'abord, comment va Jean-Baptiste Trogneux? Est-ce que l'on a des nouvelles de son état de santé?
Oui, eh bien écoutez, ce commerçant artisan de 29 ans a repris doucement ses activités au sein de la chocolaterie amiénoise. Physiquement, il va mieux, il a eu des côtes cassées et des doigts foulés, mais psychologiquement, il reste très éprouvé selon ses proches. Toujours sous suivi, Jean-Baptiste Trogneux ne sera d'ailleurs pas présent à l'audience cet après-midi. Ses médecins lui déconseillent. Ce qu'il veut, c'est la paix, tout simplement, glisse son avocat. Il ne comprend toujours pas qu'on puisse s'en prendre à lui à cause de son nom et de sa famille. Frappé en bas de chez lui, sous les yeux de sa femme, au balcon, balcon avec leur bébé dans les bras. Il a reçu 4 jours d'ITT, d'incapacité totale de travail. Au-delà des soutiens politiques, jusqu'au président Macron et son épouse, bien sûr, la famille Trogneux a reçu de nombreux messages d'encouragement, de solidarité, bien au-delà de la capitale Picard.
Les faits se sont déroulés en marge d'une intervention du président de la République à la télévision le lundi 15 mai au soir. Une agression d'une rare violence.
Oui, Jean-Baptiste Trogneux revient d'une séance de sport ce soir-là quand il rentre à son domicile, qui est situé au-dessus de la chocolaterie. Des manifestants sont près de la boutique, des poubelles ont été déplacées devant. Quand les choses dégénèrent, le commerçant reçoit des coups, il est frappé au sol. Il doit son salut en fait à l'intervention d'un voisin, Hervé, qui s'est interposé.
Le fils Trogneux, il était paumé, il saignait à ses mains. Vous voyez qu'il avait reçu des coups sur le visage.
Ils se sont acharnés.
Moi, ce que j'ai vu... Ils étaient en train de le tabasser, quoi. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Vous dire exactement si ça aurait été beaucoup plus loin, j'en sais strictement rien. Maintenant, j'ai quand même vu des gens qui étaient vraiment déterminés. Un petit groupe, mais qui était quand même très énervé, plein de haine.
Un témoignage capital dans cette affaire. Ce voisin ne cache pas qu'il a eu peur aussi pour lui, mais qu'il ne pouvait pas laisser faire cette folie.
Alors, cette folie, Franck, les agresseurs contestent certains faits.
Oui, c'est ce qu'ont raconté plusieurs de leurs copains qui étaient présents dans la bagarre et qui ont été relâchés depuis. Ils expliquent que Jean-Baptiste Trogneux les aurait d'abord plaqués au sol. Il serait intervenu, je cite, en légitime défense. Une version contestée formellement par la famille Trogneux. Parmi ces prévenus, l'un des trois minimise aussi sa participation. Son avocat, qui pourrait réclamer la diffusion des images de vidéosurveillance, entend plaider la relaxe.
Quel est le profil de ces prévenus qui ont entre 20 et 35 ans ?
Eh bien, tous ont déjà des antécédents judiciaires pour des violences, dégradations, en récidive. Le plus jeune des trois a déjà été condamné quand il était mineur pour viol et agression sexuelle. Des garçons qui ont en tout cas le profil de paumés, pas des militants politiques ni des black blocs, des babaches comme on dit dans le Nord, selon Maître Marc Blondet sur les bancs de la Défense.
C'est tout sauf des militants politiques. Ce qui choque le plus, c'est leur profil. C'est tous des jeunes qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé. Il y en a un qui est sous curatelle, il y en a qui peut-être devraient l'être, qui n'ont pas de boulot. Des déclassés en tout cas. C'est politique par l'objet attaqué, oui, bah évidemment. C'est malheureusement la famille Trogneux qui pense ça.
Une affaire de la honte, avait résumé le procureur d'Amiens lors de la première comparution. Alors les débats cet après-midi permettront peut-être de connaître les réelles motivations de ces jeunes. C'est ce qu'espère maître Franck Delahousse, l'avocat de la famille Trogneux.
L'audience sera aussi une audience de vérité qui permettra de savoir effectivement quelle est la motivation de ces personnes, si c'est uniquement de la débilité ou bien si véritablement c'était ciblé. On ne le sait pas encore. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est Jean-Baptiste qui a été agressé devant son magasin.
Et la dernière personne mise en cause dans cette affaire, une jeune fille de 16 ans, n'a pas encore été entendue par un juge pour enfants.
Merci beaucoup Franck Hanson. Vous allez donc suivre cette audience à Amiens pour RTL.
Dans un instant, quelque chose que vous faites tellement bien, chère Agnès.
Oui, c'est parce que je fais du yoga.
Non, que le rire. On va parler. Il est bon de rire, mais il y a des cours de rire.
Exactement, des cours de yoga du rire. Exactement. C'est pour ça que je vous disais ça.
À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Midi.
Votre vie.
Votre vie, Carl Info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Vous reconnaissez le rire d'Henri Salvador ?
Henri Salvador, oui.
Un rire communicatif, parce qu'il est bon de rire. C'est bon pour le moral, bon pour la santé. Figurez-vous qu'il existe même des cours. Bonjour Gérald Ivinec.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, vous êtes fondateur du yoga du rire. Vous allez nous expliquer en quoi cela consiste. Mais tout d'abord, quels sont les bienfaits concrètement du rire sur la santé ?
Alors, non, je ne suis pas fondateur du yoga du rire, mais je suis animateur en yoga du rire. En fait, le rire a été instauré et créé par un Indien, Yogan Kataria, dans les années 90. Donc, il en a fait une pratique à part entière. Et c'est une pratique vraiment très intéressante qui permet d'avoir beaucoup de bienfaits sur la santé, notamment d'évacuer le stress en sécrétant des endorphines, en diminuant les hormones générées par le stress. Donc c'est plutôt une pratique très bénéfique pour la santé.
Mais en quoi ça consiste ? Parce qu'on pourrait imaginer que pour rire, vous regardez un film peut-être qui vous amuse, vous écoutez un humoriste qui vous a amusé, vous écoutez une émission qui vous amuse. Qu'est-ce qui est différent avec le yoga du rire ?
Alors voilà, justement, vous me posez une question très intéressante. Vous parliez de films de rire, etc. Et j'ai une...
Ah, bah malheureusement, la liaison a été coupée au moment où vous alliez nous faire rire, peut-être, et nous proposer en quoi consiste le yoga du rire. J'ai l'impression, Damien, que la liaison est coupée, et ça, c'est pas drôle, malheureusement.
Nous on le rappelle, Pascal.
On le rappelle dans une seconde, mais c'est vrai que c'est un sujet. Alors, je rappelle qu'on est avec Gérald Divinec. Il est non pas fondateur, mais il est animateur du yoga du rire. Il nous expliquait que c'était un Indien qui avait fondé ce concept du yoga du rire. Et je lui posais la question, évidemment, quelle différence entre le yoga du rire et puis écouter un humoriste ou un film qui pourrait nous amuser.
Y a-t-il besoin d'interaction finalement ? A-t-on besoin d'éléments extérieurs pour rire ou peut-on rire seul ?
Je crois que c'est nous qui allons faire. C'est nous qui allons faire précisément pour les auditeurs. On va tenter d'expliquer. Est-ce qu'on peut rire seul, disait Agnès Bonfillon. Bon, vous êtes de retour, monsieur Ivinec ?
Oui, je suis de retour.
Alors, expliquez-nous et répondez à cette question. En quoi ça consiste précisément et en quoi c'est différent de regarder un film drôle ?
Eh bien, c'est différent puisqu'il y a des interactions. Le fait de rire, et vous disiez le rire est communicatif, ça permet vraiment donc de pouvoir transmettre ce rire et pouvoir commencer à développer la chimie du corps. Donc la chimie du corps, c'est vraiment développer les hormones du bonheur et éliminer de par le fait le stress.
Donc, oui, mais vous faites quoi, par exemple ? Dites-nous, dites-nous ce que vous faites. Vous faites quoi pour qu'on rie ?
Alors, donc, voilà ce que je fais. Donc, c'est que, en fait, quand vous voyez quelqu'un rire, par exemple, ou sourire, tout de suite, c'est communicatif. Et moi, je pousse les gens à rire, c'est-à-dire que je sers de support en proposant des exercices simples et accessibles à tous qui permettent vraiment aux gens commencer à rire.
Donc vous leur dites, forcez-vous à rire. Par exemple, moi, vous nous diriez à Agnès et moi, riez.
Non. Non, disons que si demain je viens dans votre studio et donc nous allons nous retrouver tous en groupe et donc je vais commencer à faire des petits exercices simples et accessibles qui vont consister en fait à une gestuelle donc physique, donc je ne vais pas parler, je vais juste de par le corps, donc il y a l'expression du corps qui va donc vous permettre de faire le même exercice que moi et qui va vous permettre de commencer à rire, donc de façon...
Ça a l'air quand même très compliqué pour rire, si vous me permettez. Ça a l'air très compliqué ce que vous proposez pour rire, j'arrive toujours pas, mais donnez-moi un exemple, un exercice que vous faites.
Eh ben, par exemple, on peut très bien faire, je vais dire n'importe quoi, le rire du kangourou. Donc, je vais me mettre dans la position du kangourou et je vais commencer à imiter le kangourou de façon tout à fait simple et ludique. Et donc,
et ça va détendre l'atmosphère.
Par mimétisme, faire le même exercice que moi.
Bon, c'est le yoga du rire.
Et vous allez rire et donc avoir cet échange.
Non, mais c'est intéressant, le yoga du rire avec Gérald Ivinec. Alors, on aurait pu aller évidemment plus d'une manière plus lointaine dans cet entretien. Hélas, il y a eu une petite coupure, donc on reste peut-être un peu sur notre fin, mais on peut peut-être travailler le sujet, si j'ose dire, sur il y a un site internet, j'imagine, monsieur Ivinec, pour vous retrouver, fondateur du yoga du rire, animateur
oui,
du yoga
fait.
Du rire.
Voilà, donc... Exactement. Donc le mieux, c'est voilà de voir les choses tout sans mots et plutôt l'image parle plus que les mots.
Et allons-y. Voilà, je renvoie tous les auditeurs que ça intéresse. Monsieur Ivinec avec un Y, animateur du yoga du rire. L'info revient à 12h27. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
Il est 12h30.
RTL Midi,
le 12-30,
Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Et bonjour à tous si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, la grande édition avec Agnès Bonfillon.
Le petit Kenzo agressé en loge à Ajaccio samedi soir reste très marqué. Nous ferons un point sur l'enquête avec Hugo Hamelin en début de ce journal. Resserrement du prêt à taux zéro, aide à la location, fin du dispositif Pinel. En pleine crise du logement, le gouvernement doit annoncer cet après-midi plusieurs mesures. À suivre également, la baisse de notre panier RTL pour la première fois en 16 mois, un an et demi donc. Nous ferons un point sur les prix à la pompe également qui commencent eux aussi à baisser légèrement.
Évidemment, tous ces sujets, nous en parlerons à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole au 32-10.
Et nous allons également parler de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera demain et nous vous posons cette question. Allez-vous manifester ? Dans LVT Midi, retour sur le coup d'envoi de la tournée Nevermore de Mylène Farmer. Stephen Bellery était au premier concert samedi soir à Lille. Il a pu recueillir entre autres les confidences de son producteur historique. Mais avant cela, la météo avec vous, Louis Baudin. En un mot, ce qui nous attend cet après-midi ?
C'est bloqué. La situation est totalement bloquée.
Un bon blocage.
Bonjour. Bloqué avec le soleil au nord et les orages dans le sud. Ça recommence.
Merci beaucoup, Louis. À tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Cela devait être un moment de répit pour le petit garçon qui au quotidien se bat contre un cancer du cerveau. Kenzo, 8 ans, grand supporter de l'OM, était invité pour le match de son équipe à Ajaccio ce week-end. Le rêve a tourné au cauchemar. Il a, selon sa famille, été agressé par des supporters corses. Le président du groupe de supporters, d'ailleurs, conteste des détails du récit. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Marseille. Hugo, comment d'abord va Kenzo ce matin ?
Eh bien, il est rentré dans son village de Roquefort-la-Bédoule, à côté de Marseille. Il se repose aujourd'hui avec sa famille. Habituellement, il est scolarisé quand son suivi médical le lui permet. Là, il est encore trop choqué par ce qu'il s'est passé ce week-end au stade François Coty. Ses parents ont porté plainte d'ailleurs directement à Ajaccio avant de rentrer en avion sur le continent hier soir. Deux enquêtes sont ouvertes par le parquet d'Ajaccio, celle-ci et puis l'autre qui concerne l'agression d'un journaliste de France 3 par des hooligans marseillais. Le club d'Ajaccio affirme que la police est depuis ce matin en possession des bandes de vidéosurveillance pour tenter d'identifier les agresseurs les plus virulents du papa de Kenzo. Ils seront exclus de stade à vie, a affirmé le président du club, Alain Orsoni, qui veut lui aussi porter plainte quand les agresseurs auront été identifiés.
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Merci Hugo. Ils sont reconnus coupables de harcèlement scolaire, mais impossible de dire si c'est pour cette raison que Lucas, 13 ans, s'est suicidé en janvier dernier dans les Vosges. Quatre collégiens ont écopé ce matin de mesures éducatives en attendant leur peine définitive. Elle sera prononcée en janvier prochain. Ils risquent tous 18 mois de prison.
RTL Midi.
Demain, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
250 cortèges prévus partout en France, de rares perturbations, voire carrément un trafic normal dans les transports. Est-ce que le mouvement touche à sa fin ? En tout cas, les syndicats en sont bien conscients, Nerissa Emani. D'une façon ou d'une autre, il va falloir avancer.
Et regardez la réalité en face. L'application de la réforme des retraites est en route. Deux premiers décrets publiés ce week-end, symbole du projet sur les mesures d'âge, les carrières longues. Alors, aucun doute pour Simon Dutheil, numéro 1 chez Solidaires. Une énième mobilisation ne servirait à rien.
On n'a pas beaucoup de ressources supplémentaires sur la question des retraites. Mais est-ce que le sujet il va disparaître ? Moi, je ne crois pas. Je crois que cette question des retraites, elle va continuer à être au cœur de l'action politique et de la situation sociale et syndicale d'autre part.
Car si les syndicats passent à autre chose, nul doute qu'on entendra le mot retraite dès cet après-midi, 17h30, lors d'un rendez-vous entre les cinq premières organisations syndicales et le patronat. Une première depuis 2021. Objectif, fixer un agenda social, se mettre d'accord sur les sujets à négocier avant de les présenter au gouvernement. Et au-dessus de la pile des dossiers, il y a l'emploi des seniors, la reconversion professionnelle, la pénibilité. Bref, une manière de revenir par la petite porte dans le combat des retraites.
Merci beaucoup Nerissa Emani pour RTL.
Et pendant ce temps, Emmanuel Macron sera en Normandie.
Oui, le président de la République se rend d'ailleurs au Mont-Saint-Michel dès cet après-midi. C'est une tradition, hein. Tous les présidents se sont rendus dans ce lieu mythique, qui va d'ailleurs célébrer son millénaire. Et à chaque fois, Marie-Bénédicte Allaire, lors de moments clés.
Oui, en campagne ou déjà en fonction, comme François Mitterrand, le président qui croyait aux forces de l'esprit et qui évoque en 1983 les futurs grands travaux dans la baie.
Cette expression de la volonté d'un peuple qui, à la fois, a le courage de corriger les actions passées pour améliorer et sauvegarder, et puis un peuple qui voit devant lui, qui ose, qui entreprend. Voilà un bon exemple qui pourrait être médité dans beaucoup d'autres domaines aujourd'hui.
En 2015, François Hollande voit dans ses grands travaux le symbole de ce que doit être l'action politique, regarder au-delà de sa propre vie. En campagne pour sa réélection en 2002, Jacques Chirac lui avait parlé écologie et taclé l'action du gouvernement Jospin.
Il faut un changement de méthode de gouvernement. Dans les années récentes,
Le ministère de l'Environnement a trop souvent servi de caution écologique et l'action n'a naturellement pas suivi.
Nicolas Sarkozy lance sa campagne victorieuse de 2007 au pied de l'abbaye. Trait d'union, dit-il, entre une république laïque et une spiritualité qui a compté dans l'histoire de France, un thème récurrent de son mandat.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
Le gouvernement s'attaque à la crise du logement. Plusieurs mesures doivent être annoncées par Elisabeth Borne cet après-midi.
Alors, parmi les objectifs de la Première ministre, faciliter l'accès des Français à la location ou à la propriété. Car dans les deux cas, Martial Youl, la situation est très compliquée.
Ben oui, c'est devenu compliqué d'acheter parce qu'on a du mal à obtenir un prêt et c'est devenu difficile de trouver des locations parce que les loueurs se détournent du marché, les propriétaires. Donc les prix baissent, la location longue durée est moins intéressante fiscalement qu'un Airbnb. Le Pinel est donc abandonné. C'est la première fois qu'on supprime les dispositifs de défiscalisation en France depuis quasiment 40 ans. Le Pinel abandonné parce qu'il faut écouler tout simplement les nouveaux logements déjà construits mais encore invendus. Donc pas la peine d'encourager la construction neuve. Et puis vous avez le prêt à taux zéro qui lui va être restreint. Les ménages modestes pourront en bénéficier uniquement sur l'achat d'appartements en zone tendue et sur les maisons anciennes avec des travaux d'isolation au programme. Et pour décider les propriétaires à louer, on va aussi élargir le dispositif FISAL où l'État garantit le paiement des loyers.
Les mesures prévues par le gouvernement vont-elles suffire, Martial ?
Ça va être difficile, ces mesures sont critiquées déjà par beaucoup de professionnels. Vous avez les constructeurs de maisons individuelles déjà qui disent que les ménages n'auront plus accès à une maison parce que rénover, ça coûte plus cher que d'acheter du neuf. Et la Fédération française du bâtiment a déjà fait les comptes. Elle estime que 100 000 emplois sont maintenant menacés dans les deux ans qui viennent.
Merci beaucoup, Martial Youl pour RTL. On suivra évidemment ces annonces cet après-midi.
À Londres, le prince Harry attendu à la barre des témoins.
Le cadet du roi Charles III a intenté un procès contre un tabloïd, en l'occurrence le Daily Mirror. Il lui reproche d'avoir utilisé des méthodes illégales, notamment le recours à un détective privé pour obtenir des infos sur sa vie. Coup d'envoi de la quatrième semaine des débats ce matin et toujours pas de Harry qui est au tribunal. Pourtant, il était attendu. Visiblement, ce ne sera pas encore aujourd'hui. Ça ne va pas faire taire les critiques envers lui. Normalement, c'est sûr et certain, Marie Billon, il doit venir témoigner, Harry.
Il viendra témoigner, c'est sûr. Il est arrivé au Royaume-Uni hier et c'est un moment important pour Harry. On sait qu'il a refusé un accord à l'amiable en coulisses. Ce qu'il veut, c'est que les projecteurs soient sur la presse tabloïde et sur ses méthodes. C'est la mission qu'il s'est donnée, dénoncer cette presse haut et fort. Alors évidemment, les projecteurs seront aussi sur lui, ce qui n'est jamais vraiment malvenu pour un prince qui doit maintenant gagner sa vie grâce à sa notoriété. Et c'est vrai qu'il veut aussi redorer un peu son image, se redonner une image de sérieux après quelques faux pas mettant en cause sa crédibilité dans ses mémoires notamment, mais comparaître devant un tribunal, ça n'est pas sans risque non plus.
Et Marie, c'est un événement puisque c'est la première fois dans l'histoire de la monarchie qu'un prince témoignera à la barre dans un procès ?
C'est la deuxième, la troisième fois en fait, c'est la première fois en plus de 100 ans, effectivement, qu'un prince n'a pas témoigné à la barre dans un procès. C'est par contre loin d'être la première fois qu'Harry, lui, s'exprime sur le sujet. L'immense différence cette fois, c'est qu'il n'est pas devant un animateur, habitué aux états d'âme des vedettes. Il n'est pas en train de raconter sa vérité à un public compatissant ou au moins curieux. Le prince Harry va d'abord donner sa version des faits et puis il va être interrogé par l'avocat du groupe de presse. Alors même s'il a présenté quelques excuses, le Daily Mirror Newspapers nie avoir utilisé des méthodes illégales pour les 33 articles qui sont au cœur de ce procès. Et l'avocat du média ne va donc pas y aller de main morte avec Harry. Il doit faire son travail sans peur ni faveur, même face à un prince.
Sans peur ni faveur. Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Merci Marie.
RTL. Roland-Garros 2023.
Roland-Garros, nous attend Jean-Michel Rascol et la qualification à l'instant de Holmes Jabeur.
Oui, je vous avais laissé entendre que Ons Jabeur était sur le point de se qualifier. Eh bien, elle a parfaitement maîtrisé sa fin de match face à l'américaine Bernarda Pera pour l'emporter 6-3, 6-1. La Tunisienne se qualifie donc pour son premier quart de finale à Roland-Garros. Elle a déjà disputé deux finales à Wimbledon et à l'US Open l'an dernier. Début du match entre Casper Ruud, le Norvégien finaliste du tournoi homme l'an dernier. Il est opposé au Chilien Nicolas Jarry et pour l'instant c'est très serré puisqu'on joue depuis très exactement 5 minutes et Casper Ruud n'est pas parvenu à gagner son engagement dans le premier jeu.
C'est la fin des huitièmes de finale homme, nous sommes d'accord ce lundi, et il y a un quart de finale qui s'annonce somptueux entre Alcaraz et Tsitsipas, c'est quasiment une finale.
Ah oui, les deux matchs programmés pour Alcaraz sont formidables. Ouais. D'abord, Tsitsipas. Et s'il gagne, Djokovic, ce serait la demi-finale de vendredi. Mmh. Et peut-être la passation de pouvoir entre deux générations. Mais nous n'en sommes pas là, puisque avant cela, il faut effectivement battre le grec Tsitsipas, qui est monté en puissance dans ce tournoi et qui se sent bien dans cette deuxième semaine.
Merci beaucoup Jean-Michel. On refait un point évidemment sur RTL toutes les demi-heures. Donc on vous retrouve à 13h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. La météo avec vous, Louis Baudin. Bien, c'est toujours estival dans le Nord.
Ah bah c'est ça, hein, j'ai l'impression de faire le perroquet là depuis plusieurs jours. Ça reste estival, la situation est bloquée. Toujours un anticyclone sur l'Angleterre qui apporte donc un vent d'est sensible, mais un peu moins fort que durant ces derniers jours sur le littoral de la Manche. Et ça maintient également un temps sec et ensoleillé donc dans toute cette moitié Nord. Alors que dans le Sud, de l'Aquitaine aux Alpes, comme hier, on va voir les orages reprendre cet après-midi avec une grande irrégularité. Hein, à quelques kilomètres près, on peut être touché par des orages violents, parfois accompagnés de grêle, ou au contraire de quelques pluies, tout ça avec des rafales de vent. Ça concernera également les Pyrénées et le relief Corse. Et puis les températures, ça bouge pas non plus. 17 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 28 degrés dans toutes les autres régions avant les orages. On l'a vu hier, sous un orage, on a pu perdre jusqu'à 10 degrés en quelques minutes.
Merci beaucoup Louis, à tout à l'heure.
Christophe Bourou est avec nous. D'habitude, il nous parle souvent de voitures électriques, mais là, c'est les prix à la pompe. Est-ce que ça baisse?
Teasing, pas trop.
Gros mystère.
À tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon.
RTL Midi jusqu'à 13h.
Oui. Agnès Bonfillon, Pascal Pro,
RTL Midi.
On en parlait tout à l'heure, le panier RTL baisse enfin, depuis un an et demi, ça n'était pas arrivé. Et il paraît que les cours du pétrole sont, eux, revenus au même niveau qu'avant la guerre en Ukraine. Je dis il paraît, Christophe Bourou, bonjour à vous d'abord. Il paraît parce que ce n'est pas toujours flagrant lorsque l'on fait de l'essence. Où en sommes-nous réellement? Est-ce que les prix à la pompe ont-ils, oui ou non, baissé?
Non, mais vous avez raison de me le faire remarquer.
Dans le Sud, on fait toujours de l'essence.
C'est vrai.
Alors, oui, ces dernières semaines, bon, alors, on ne va pas prendre de prix d'essence, on va prendre le prix du diesel, qui est le carburant star en France, avec toujours près de 60% de la consommation. Alors, après avoir dépassé, vous vous en souvenez, c'était historique, le prix du sans-plomb, il vient de connaître une baisse record, 15 centimes tout de même, en à peine un mois et demi. Il s'affiche désormais à un peu moins de 1,70€, 1,69€ précisément. Et depuis quelques jours, eh bien, son prix reste quasi stable. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise est que depuis plus d'une semaine, les prix de l'essence repartent à la hausse. Alors certes, c'est une légère hausse, mais la semaine dernière, le sans plomb 98 a ainsi gagné quasiment 1 centime et se rapproche de la barre des 2€, 1,93€ en moyenne. Même tendance pour le sans-plomb 95 qui s'affiche désormais à 1,89€.
Bon, par rapport aux autres pays,
L'automobiliste français paye, c'est clair aujourd'hui, beaucoup plus cher son carburant que la plupart de ses voisins européens. Dans un rapport publié il y a quelques jours, la Commission européenne souligne que le litre de sans-plomb 95 est vendu en France en moyenne 90 centimes hors taxe, soit plus de 7 centimes de plus qu'ailleurs en Europe. Autrement dit, les fameuses taxes, aussi souvent pointées du doigt, on rappelle qu'elles sont de l'ordre de 60% en France, eh bien, ne sont donc absolument pas les seules en cause dans ce prix.
Mais alors, pourquoi chez nous, les prix restent beaucoup plus chers, comme vous dites?
Alors, aujourd'hui, il y a de fortes raisons. D'abord, les coûts de la logistique, c'est-à-dire les transports, un coût qui s'est envolé. Ensuite, la grande distribution qui, après avoir longtemps, vous savez, multiplié les opérations à prix coûtant, cherche aujourd'hui forcément à reconstituer ses marges, même si elles sont faibles, parce que c'est souvent un produit d'appel, donc propose moins de ristournes à la pompe. Or, la grande distribution, c'est plus de la moitié des ventes de carburant en France. Enfin, il y a une troisième raison dont on parle peu souvent, c'est le boom du bioéthanol. C'est important parce qu'on en retrouve à hauteur de 10% dans le fameux sans-plomb 95 E10. Le bioéthanol, c'est fabriqué à base de blé et de maïs. Les ventes et les prix ont fortement grimpé ces dernières semaines. Donc tout ceci explique pourquoi en France, on paye plus cher que nos voisins européens. Et on le rappelle, les taxes sont aussi les plus élevées, de l'ordre de 60%.
Le prix de l'essence est libre. Nous sommes d'accord en France. Oui. Donc moi, j'ai le sentiment que celui qui a une station-service indépendante, il fait un peu ce qu'il veut.
Oui, mais alors ils ont des marges extrêmement faibles.
Puisqu'ils... Oui, non. Tiens. Je vous assure, dans Paris, vous voulez que je vous dise le prix alors, là, dans Paris. Alors, moi, j'ai fait je parle uniquement dans Paris.
Oui, mais moi j'ai fait le plan ce matin, 2,16€ le sampon 98.
Mais il y a des arrondissements, visiblement, je pense qu'en fonction des arrondissements, parfois c'est plus cher. Ça peut être 2,50, 2,60, c'est monté jusqu'à 2,92.
Mais les marges sont extrêmement faibles pour les indépendants. D'ailleurs, ils en disparaissent de plus en plus face à la concurrence des grandes surfaces. Ils sont déjà obligés de se diversifier.
J'ai l'impression qu'il y a un micro-marché dans Paris, moi.
Oui, dans les grandes villes, c'est assez fort. Je l'ai senti ce matin, d'ailleurs.
Mais est-ce qu'on retrouvera un jour le litre à 1,50€ ?
Non.
Merci, Christophe.
Selon les experts, non. Parce qu'en plus, une chose importante...
Et vous êtes un expert.
Une chose importante, l'OPEP a décidé ce week-end de réduire la production d'1 million de barils par jour à partir du mois de juillet. Or, le mois de juillet, c'est les départs en vacances.
Les prix vont remonter.
Et les prix vont faire...
Moi, j'ai l'impression que quand le pétrole monte... Les stations très rapidement augmentent les prix, mais quand le pétrole baisse, j'ai l'impression que c'est la croix et la bannière pour les faire descendre.
Alors là, je ne suis pas 99% d'accord avec vous, mais 100% d'accord.
Voilà, nous sommes tout à fait d'accord. Damien Béchiot, que je salue, est d'accord également à 12h50, me dit-il à l'oreille. La pause, et puis dans une seconde, eh bien, tout est chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée. A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, Mylène Farmer, elle a lancé sa tournée des stades samedi soir.
Et Steven Bellery, vous étiez au stade Pierre Mauroy, près de Lille, pour RTL. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
C'est la tournée la plus ambitieuse de sa carrière. 13 stades étalés jusqu'à fin juillet, plus de 600 000 billets déjà vendus. Son nom à cette tournée Nevermore 2023. Alors, d'abord, Steven, c'était comment ? On est jaloux.
Grandiose. C'était aussi émouvant et c'était plein de surprises. La première des surprises, c'est que la star offre l'entrée la plus sobre de sa carrière. Alors, ça a pu décevoir une partie des fans, mais c'est assez malin. Elle apparaît juste comme ça par le sol, dans une nuée de corbeaux, entourée de squelettes de têtes d'oiseaux. Mylène Farmer, seule sur l'immense avancée, s'envole tout à coup sur une nacelle, un coup à droite, un coup à gauche. On la voit à 4 mètres du sol. Ça lui permet de s'offrir comme un bain de foule et de visiter ses fans au plus près. Premier tube, Libertine. C'est du live, c'était samedi soir. Cadeau pour RTL. Optimistique moi, Tristana pour la première fois depuis 1989. Côté de l'univers, on peut dire que c'est à la fois gothique, baroque, entre feu et glace, la figure du corbeau est omniprésente. Le décor est époustouflant, une cathédrale en ruine à moitié retournée, une façade de la cathédrale sert en fait de toit. Imaginez, la scène fait 60 mètres d'ouverture, 24 mètres de hauteur, 22 mètres de profondeur. Thierry Suc, le producteur historique de Mylène Farmer.
Il y a 89 semi-remorques, 270 personnes de mémoire qui travaillent. Mais il y a certains jours, je pense que ce soir, lorsque le show va être démonté, après le concert, il y aura 400 personnes qui vont travailler en tout. Donc tout est gigantesque. On a deux scènes, mais on a une seule production. C'est-à-dire que là, la scène est en train de se monter à Nantes. Pour que lorsque la production va pouvoir partir d'ici, je crois que la production sera partie lundi, il faut à peu près une journée et demie pour te démonter, qu'ils aient le temps de monter pour qu'on puisse jouer. L'essentiel étant d'être toujours différent. Et là, vous retrouverez des codes, tout ce qui a bercé, je pense, la carrière de Mylène depuis ses 34 années scéniques. Je ne sais pas s'il faut tout le temps innover, mais l'essentiel c'est d'avancer et de proposer quelque chose qui soit différent.
XXL en live samedi, voix très claire, sourire nombreux, Farmer danse moins, mais l'émotion du coup elle est plus forte, notamment pendant les 4 titres acoustiques avec 1 le duo Aaron ou 2 Yvan Cassar au piano. À l'orée de ses 40 ans de carrière, Mylène Farmer multiplie aussi les clins d'œil au passé, ancienne chorégraphie, retour du trône, mais à 61 ans elle renouvelle sa garde-robe ou les arrangements qui sont vraiment épatants sur cette nouvelle tournée. Écoutez ses spectateurs croisés à la sortie du stade.
«
Et je dirais franchement que c'est le meilleur de ses concerts. Clairement, elle s'est mise à la page.
Très émouvant, je l'ai trouvée très présente, incroyablement souriante pour un premier soir.
Beaucoup de clins d'œil à toutes ses tournées, en fait.
À toutes ses tournées, énormément. Entre la robe argentée qui peut rappeler le Tour 96, entre les tenues de Sans Contrefaçon qui peuvent rappeler le premier Tour de 89, avec un XXL qui rappelle l'entrée sur scène de 2009, hein, c'était vraiment ouf.
Juste, c'était magnifique, fantastique, on a pleuré, c'était magique, voilà.
Elle a recréé de l'humain en créant tous ses tableaux et en étant moins son image. Finalement, elle est beaucoup plus humaine et c'est vachement chaleureux. Et donc ça fait du bien, on est en communion complète, sublime.
Vous avez également évoqué avec Thierry Suc l'état d'esprit de Mylène Farmer. Hein,
oui, j'ai voulu savoir comment la star se sentait alors qu'elle donne le coup d'envoi de la tournée la plus folle de sa carrière.
Bon, elle est concentrée, elle est radieuse. Rien ne la rend plus heureuse que de savoir qu'elle va retrouver les gens qui l'aiment. Et à la fois, elle sait que c'est un devoir de leur apporter deux heures de bonheur, de leur apporter le meilleur. Elle sait qu'elle elle se doit de donner ça et d'être en forme pour ça. Mais cette exigence, elle l'a vis-à-vis d'elle-même. Donc elle l'a aussi au niveau de l'entraînement physique. La taille de la scène, il faut l'occuper physiquement, c'est un exercice d'athlète, c'est pas facile, et quand elle sort, elle est fatiguée au bout des deux heures. Il faut également se préparer, c'est ce qu'elle fait, et elle aime en effet donner du temps au temps et aux gens qui travaillent pour avoir le meilleur, je l'espère en tout cas.
Comment ça se passe ce moment très précis avant de monter sur scène? Est-ce que c'est vous qui allez la chercher ou est-ce qu'elle ne sort que quand elle est prête?
Il y a un moment où il faut la laisser, on n'a pas besoin de se dire des mots. Il y a un moment donné où je n'y vais plus, je ne l'accompagne pas parce que je veux pas rater son entrée sur scène. De toute façon, elle est tellement concentrée qu'elle est dans sa tête et elle est déjà avec eux.
À tout jamais en live, samedi soir, l'un des quatre titres de L'Emprise, son dernier album que Farmer a chanté.
Et alors, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce la dernière grande tournée de Mylène Farmer, Steven?
Moi, j'ai eu cette sensation, en tout cas, peut-être un adieu au méga show. On la reverra peut-être dans des petites salles ou faire des clips, des courts-métrages. J'ai demandé à Thierry Suc, également manager de Mylène, ce qui se cachait derrière le nom de la tournée Nevermore, plus jamais en français.
Que tout est recommencement, que la fin n'est jamais sûre. Pour elle comme pour moi, on en parle régulièrement. Il y a un moment donné, il faut savoir arrêter. Il faut savoir quand c'est le bon moment. Donc voilà, c'est pas que jouer avec les mots. C'est aussi savoir qu'en effet, à un moment donné, les choses s'arrêtent. Dans la dignité, je dirais.
Ce sont donc des discussions que vous avez, vous, en tant que manager avec Mylène, sur savoir ou pas recommencer. Ce sont des discussions franches que vous avez entre vous.
Je pense qu'on se parle pratiquement tous les jours avec Mylène. Et qu'on parle pas que de carrière, on parle de vie, tout simplement. Donc ce sont des conversations de vie, de nos envies, de ce qui nous motive ou pas, à nous réveiller le matin et avoir envie de continuer, de faire. Elle se pose la question, je me la pose moi-même. Je crois que c'est sain de réfléchir à quelles sont nos envies de vie.
Le mystère demeure toujours, reviendra-t-elle ou pas ? C'est bien qu'il y ait du mystère. Mylène Farmer est en tournée jusqu'au 29 juillet. Il reste encore quelques places à Lyon, Bordeaux, Nice, Bruxelles ou Marseille.
Et les gens qui verront le spectacle à Nantes vendredi soir verront le même spectacle avec les mêmes chansons.
Exactement. Ah bah donc, vous imaginez qu'un tel spectacle avec de tels tableaux, on ne peut pas s'amuser à changer la setlist, à rajouter un titre ou à en enlever un autre.
Il y a par exemple des standards qui n'y sont pas.
Il y a quelques standards qui manquent. C'est un petit peu mon bémol. Elle ne chante pas « Je te rends ton amour ». Elle ne chante pas « California ». Elle ne chante pas « L'Amstram Grand ». Par exemple, ça manque peut-être, c'est des choix, mais quand on a autant de tubes comme
ça,
Farmer, c'est dur de
ne pas faire 10 heures de concert non plus.
Et pourquoi pas? La pause, et nous revenons avec l'info dans une seconde.
RTL Midi.